Bonsoir à tous et bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. En 2022, comme en 2021, et ce temps qui passe, ce temps qui nous marque, ce temps sur lequel on va beaucoup s'interroger ce soir, avec un garçon qui le 31 décembre dernier écrivait sur son compte Instagram « Le 365e jour n'est ni le dernier ni le premier, il est au final ce qu'on en fait ». Lui qui écrit aussi que dans l'art, dans la nature, dans un regard croisé par hasard et même dans la tempête, il existe toujours un infime chemin de lumière qui vient à nous, qui naît en nous comme une promesse. Laissez-vous surprendre ce soir, c'est Nikos Aliagas qui est dans Hors-Piste.
Hors-Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Την άλλη φορά εγώ σε περίμενα πάντως πίσω, αλλά μπορούμε να πούμε στην Ανέτ να μας πει πόσο κάνει το τοφ-τοφ στη χώρα της.
Σκάτω. Αν
maintenant il est temps. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend la vérité?
Évidemment.
Pas mal, pas mal.
Mais enfin, il m'a dit le jour où nous. Eh ben, il a dit le jour où nous on a rencontré l'Olympique de Marseille au football, ça a été un des plus beaux spectacles qu'on a pu voir.
C'est vrai.
Il a dit ça?
Mais ouais.
Dis la vérité en me regardant dans les yeux.
C'est bien ce qu'on a dit quand même.
Non, c'est moi la patronne.
C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, Christine, je te jure.
Il y en a assez d'or.
Oh là là.
Il y en a assez d'or. Il y en a assez d'or. Il y en a assez d'or.
Mais je prends le cas.
C'est la voix. Il y en a assez d'or. Il y en a assez d'or. Oh, casser la voix.
La Grèce m'a guidé, telle une maîtresse, une idée, une chimère peut-être, ou un idéal. Mais je l'ai en moi.
Ils veulent la célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire, ils sont 16 à vouloir devenir stars.
Les jeunes s'intéressent peu à la Grèce antique, mais pour eux, la Grèce contemporaine se nomme Nikos Aliagas. Depuis 8 ans, ce quarantenaire rugissant anime la seule académie susceptible d'intéresser les cours de récré, la Starac, ou Star Academy, l'émission où l'on se dit ça, par exemple.
Vendredi, Star Academy.
L'académicien qui part en finale contre Michael et Alice qui marchera sur les traces de Jennifer, de Louane Leroy et de Dupréger ou encore Quentin de Finale.
La photographie, pour moi, et ça a été un moment précurseur, c'est via quand je suis tout petit, quoi. Je vois une boîte à chaussures avec des photos et je découvre mes parents jeunes. Et je suis étonné de voir mes parents jeunes et je réalise le temps qui passe et je photographie. Mon père m'offre un Kodak, un Instamatic avec les flashs carrés parce qu'il me voit faire des photos imaginaires.
S'agapo, s'agapo, yati sore, eh.
Alors évidemment, un des moments qui a marqué ma vie de ces 50 dernières années, c'est quand je suis devenu père. Papa, Baba.
Ο Εμμανουέλ Μακρόν, στην ΕΡΤ.
Il y a 200 ans, la Grèce a fait rêver l'Europe, en particulier la France.
Ο Γάλλος πρόεδρος σε αποκλειστική συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση και τον Νίκο Αλιάγα.
Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Quand tu partiras pour Ithac, souhaite que la route soit longue, riche d'aventures et d'enseignements.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Piste, Nikos Aliagas.
Merci de m'accueillir, Thomas Soto, et merci pour toutes ces images radiophoniques.
On va pas faire semblant de ne pas se connaître, on se connaît vraiment très très bien, vous et moi. Mais le temps de cette émission, on va pas se tutoyer, parce que de ce hors-piste, on veut pas faire un bavardage entre copains, mais un moment de partage pour vous qui nous écoutez. On entend là encore la musique de Borsalino pour clore ce portrait. Borsalino, film de 70, avec Belmondo, avec Delon et leurs costumes impeccables. Pourquoi elle vous parle? Pourquoi elle vous touche, cette musique?
Parce que c'est le film dont parlait mon père pendant toute ma jeunesse, car mon père était tailleur et il avait travaillé sur les costumes d'Alain Delon. Et puis c'est cette France faussement désuète, avec un parfum de nostalgie, de ce Paris des années 60 et 70 que je retrouve, même si, bon, Salino, c'est aussi le Sud, c'est Alain Delon. Alain Delon, c'est une petite photo au-dessus de l'atelier de couture de mon père, dans le petit appartement dans lequel nous vivions et mes parents travaillaient. Et à chaque fois qu'il regardait Delon, c'était une fenêtre, la possibilité d'un rêve, d'une vie meilleure. Et quand je disais à l'école que mon père habillait Delon, il ne me croyait pas et ça finissait toujours en baston. Mais vraiment, vraiment. Parce jusqu'au jour où j'ai rencontré
Delon. C'est lui qui a fait, hein, confectionné les costumes de Delon pour Borsalino.
Exact.
Andreas Aliagas, qui est parti le 9 mai 2017 et dont on va reparler évidemment. Dans la vie, vous avez une expression qui revient très très souvent quand on vous côtoie, quand on vous connaît, particulièrement quand la période est un peu difficile, c'est « on trace ». Elle signifie quoi cette expression, Nikos Aliagas ? On trace, tracer.
Ne garder que l'essentiel. Fixer le point d'horizon et se dire que de toute manière, tout est passage, rien ne nous appartient. Tout est mouvement, c'est très... je ne veux pas faire le malin, mais c'est un peu la philosophie d'Héraclite, hein, que rien ne nous appartient, tout est mouvement, tapan darei, et que c'est le pas d'après qui compte. C'est un chemin... C'est pas, on ne s'arrête pas avec le bruit, parce qu'on se perd dans le bruit. Ma grand-mère disait, ne te mêle pas au grain, car les poules vont te bouffer. Elles vont te picorer et t'ingurgiter et te faire disparaître. Et tu te perdras dans des problèmes totalement futiles et inutiles.
Vous avez employé ce mot de chemin. Vous en êtes où, vous, de ce chemin aujourd'hui ?
Bah, j'ai passé la moitié, j'attends le bus. Non, mais en réalité, j'ai passé les 5 premières décennies. Je ne pense pas avoir trahi le gamin qui rêvait de faire son chemin, d'une façon ou d'une autre, sans certitude, sans se donner peut-être le droit, en tant que fils d'immigré, de dire qu'un jour je serai à la télé ou devant un micro ici. Je commençais ici à RFI en 87. Qu'est-ce que je pourrais dire ici dans la maison ronde de Radio France au gamin que je vois encore dans le couloir en franchissant le seuil et la porte de votre studio? Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? T'inquiète pas. T'inquiète pas, te pose pas trop de questions, mais vis chaque instant, vis-les.
T'inquiète pas, ça va aller ou t'inquiète pas, rien n'est grave au fond ?
Oh, ça va aller. T'inquiète pas, j'ai toujours été un garçon inquiet, qui voulait faire plaisir aux siens, qui voulait dire à son père immigré que t'étais pas venu ici par hasard, que j'ai eu grâce à toi la chance d'avoir une éducation, d'avoir accès comme un Français de souche à la culture et à une vie sociale, et que tu seras heureux un jour et je te rendrai fier. C'est ça que je voudrais lui dire au gamin qui était à Radio France il y a 36 ans.
Vous avancez, vous faites votre chemin et vous tracez. Et en même temps, quand on entend ce que vous disiez là dans le portrait sonore au début de cette émission, sur ce qui vous a donné envie de la photo, on a l'impression que vous voulez capturer le temps, que vous voulez le figer avec votre appareil.
Le reconnaître en tous les cas. Et ne pas le mettre sous le tapis, ne pas le fuir. Ne pas en avoir peur non plus. Alors, on pourrait dire qu'à travers mes photos, ou à travers quelques écrits ici et là, en dehors de la télévision, où le temps n'est pas le même, l'espace-temps médiatique est un espace-temps qui n'est pas symptomatique de notre existence. C'est juste, voilà, ce sont des moments comme ça, des éclats. Mais le temps d'une existence, il doit être plus profond, il doit être assumé déjà. Assumé, c'est-à-dire qu'à 52 ans, tu n'as pas le même visage, tu n'as pas les mêmes envies et tu n'as pas peut-être la même expérience qu'à tes débuts, mais tu peux encore recommencer. Tu peux encore remettre les compteurs à zéro et te lever et te débarrasser de tes peurs et de tes doutes. On passe une vie à chercher une pérennité et une sérénité.
Et est-ce qu'en figeant le temps, en le photographiant comme ça, on pense éviter qu'il passe ? Est-ce qu'il y a une petite illusion d'immortalité dans tout ça ? Ou il y a simplement le plaisir et le besoin de marqueurs ?
Je suis un nostalgique, Thomas. Donc quand je photographie des vieilles personnes ou des mains...
Vous en photographiez beaucoup de personnes âgées. Beaucoup.
C'est vrai, c'est vrai.
Des visages burinés, des mains, vous
les
lisez, abîmées par la vie.
Des grands-mères, des grands-pères. Je le fais pour deux raisons. Un, je veux pas qu'on les oublie, quels qu'ils soient. Connu, pas connu, peu importe, on est tous l'inconnu ou le connu de son quartier. Je voudrais leur dire que, ben moi je me souviendrai de vous, que votre passage n'a pas été aussi éphémère, parce qu'une vie c'est éphémère et fragile, Et quand je photographie une personne qui a plus de 80 ans ou 90 ans, ou je photographiais récemment encore, il y a quelques mois, Sabine Weiss, qui nous a quitté, la grande photographe à 97 ans, je voulais lui dire, moi, dans vos yeux, madame, je vois votre jeunesse. Je vois une étincelle, je vois la petite fille qui rêvait de sortir pour son premier bal, celle qui a fait sa première communion, celle qui s'est fiancée, qui a tenu la main la première fois, qui est allée peut-être au cinéma. Ou... Moi, je le vois dans vos yeux, madame, malgré votre visage qui est ridé, fatigué, mais qui est encore étincelant. Et dans les yeux d'un enfant que je photographie ou d'un jeune homme, je le vois déjà âgé.
On a l'impression que vous photographiez pas tout à fait de la même manière les stars, vos invités dans 50 Minutes Inside, le côté un peu business, et puis le côté des vraies personnes, quand c'est plus authentique, les clichés avec des inconnus, ceux qui vous touchent vraiment.
Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de phare quand tu photographies par exemple un pêcheur ou un vieux sculpteur de quartier qui n'intéresse pas grand monde car il sculpte des croix funéraires, mais lui me parle, j'ai envie de faire parler ses mains. Quand je photographie une femme, par exemple, une artiste, une chanteuse ou une actrice, c'est très compliqué de rendre ou de révéler comme le rendu que je fais avec les pêcheurs, les bergers ou les gens de la rue, parce que elle a une image et je dois essayer de respecter son image sans la lisser. Voilà.
Et c'est pas facile. Non. Est-ce que vous avez une photo préférée? Oh, une photo à laquelle vous pensez, là, tout de suite?
C'est très difficile, mais peut-être une photo du temple dédié à Poséidon au Cap Sounion, à contre-jour, avec ses colonnes qui résistent et qui nous rappellent que nous sommes précisément de passage. Et qu'est-ce que tu veux dire devant un olivier qui a eu 800 ans? Qu'est-ce que tu veux dire devant un temple ou des restes ou certains voient des ruines et des pierres. Moi, je vois un être qui a 3000 ans, 2500 ans, alors que tu as à peine 50 ans ou parfois 18 ans. Tu es une erreur statistique. Donc, il faut que tu restes à ta place. Il faut que tu sois humble vis-à-vis de ça et apprendre.
Je pense à une autre photo, celle de votre père. C'est un peu le fil conducteur de votre existence.
Bien sûr.
Papa. Cette photo où il sourit, il a le regard qui part un peu vers le haut et que vous avez notamment exposé à la conciergerie à l'époque.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette photo?
Elle dit d'abord un homme qui souriait peu devant l'objectif, car il faisait partie de ces gamins qui étaient photographiés peut-être deux, trois fois dans leur existence, mais c'était un moment presque cérémonial. Il y avait tout un... On mettait ce qu'on avait de plus beau et on souriait pas, parce qu'il fallait pas rater la photo. On n'était pas des guignols, c'était un moment sérieux, la photographie. C'était comme une première communion. Et à cette phase de sa vie, il doit avoir près de 70 ans, ou un peu plus, il sourit un peu trop, il ressemble à Galabru, il n'est pas dans son élément, on va dire, plus lourd, plus Omar Chari, facteur fatal. Il a quelque chose de plus fragile et en même temps de touchant. Et en fait, il est en train de commencer à avoir les prémices de l'AVC.
Et vous ne savez pas.
Et on ne sait pas. Et moi, je le photographie et je dis, papa, tu fais le malin, tu fais le pitre, et il se marre. Et il se marre parce qu'il ne veut pas pleurer. Parce qu'il a mal, quelque part. Et parce qu'il perd certainement le contrôle de son corps, de ses nerfs, de son système neurologique. Et en même temps, il sourit. Et je trouve ça tellement magnifique et tellement courageux.
Sa disparition, Andreas Aliagas, vous a laissé inconsolable et même désemparé pendant des années, Nikos Aliagas. Elle vous fait peur, à vous, la mort?
Elle fait son travail. À moi de faire le mien. Vivre. La mort, elle n'est pas méchante. C'est la seule certitude. On devrait, dès la naissance, nous dire, mais dès la naissance, profitez-en, ça ne va pas durer. Comme ça, on aura moins d'illusions. Comme ça, on perdra moins de temps à nous lamenter dans les histoires de la vie, dans les petites choses, nos ambitions affectives, sociales. Genre, tout ça n'est pas très grave, puisque de toute manière, tu ne prendras rien avec toi. Je me souviens de cette dame, quand j'allais très étonnamment, dès l'enfance, dans les cimetières, me balader ou prendre des photos plus tard, de ces vieilles folles qui se cachent dans les cimetières, qui allument des petites bougies et qui disent « Tout restera ici !» Elle disait en grec « Olezos aminun !» de façon presque agressive. Et je dis « Pourquoi elle me parle? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qui va rester là? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce bin ?» C'était très parisien, moi, dans les villages grecs, et puisque né ici, et en fait, il m'a fallu du temps, mais j'avais compris que tout reste ici, et tout se transforme en poussière d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une chose qui est immortelle, que l'on croit ou pas, au Dieu au pluriel, en Dieu ou en ce que vous voulez, c'est l'énergie de l'amour et de la vie. C'est plus fort que tout. Plus fort que tout. Donc je ne la crains pas. Quand je suis devenu père, j'ai commencé à me poser des questions. Parce que la vie de tes enfants te rappelle ton passage et ta responsabilité vis-à-vis d'eux. Tu dis, ah, là j'ai pas envie que l'avion tombe quand je prends l'avion. Alors qu'avant, c'est pas grave, on est tous dans le même bateau, toutes ces conneries. Donc je la crains pas, mais je la respecte. Pour pas oublier de vivre.
Vous avez failli ne pas vivre. Vous êtes né avec une malformation, il a fallu vous opérer. Pendant les 3 premiers mois de votre vie, ce ne sont pas vos parents, mais les médecins qui vous prennent dans leurs bras, qui tentent de vous faire survivre. Est-ce qu'elle est là, votre faille, la faille originelle ?
Certainement.
Ouais.
Vous me connaissez bien, et elle est là. Il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi, lorsque je dormais, comme un somnambule, je levais les mains. Des années. Et j'ai réalisé ça, il n'y a pas très longtemps. C'était pour m'accrocher à quelqu'un. Parce que même si ma mère ne m'a pas abandonné, elle était une jeune femme de 19 ans, dont on a pris l'enfant pour lui sauver la vie, à Paris, à Necker. Quelque part, sans le vouloir, mes parents m'avaient livré à moi-même. Mais m'avaient aussi permis de résister, de survivre, et par extension, de tracer ma route.
Tout prend son sens, évidemment.
D'une certaine façon.
Et il y a un sujet sur lequel vous êtes très pudique, Nikos Aliagas. Je ne sais pas si vous voudrez nous en parler ou pas. Vous êtes un passeur.
Oui.
Ça veut dire quoi ?
On l'est tous. Hein. C'est une histoire qui concerne la reconnaissance du passage de la vie à la mort, en fait. Et il m'est arrivé, un peu par hasard, dans un premier temps, il m'est arrivé souvent de me retrouver dans des situations de deuil où quelqu'un venait de mourir. Ça avait commencé avec mon grand-père, il m'avait dit un jour, j'étais haut comme 3 pommes, il a dit à mes parents, qu'ils viennent avec moi, il y a tel voisin qui est mort, on va le voir, je suis au village en Grèce. Et puis je le vois faire un rituel, qui n'est pas un rituel dogmatique, on va dire chrétien, qui était quelque chose qui était presque de l'ordre du païen. Une sorte de contact au corps, de laver le défunt, de l'habiller, de lui mettre une pièce dans la bouche pour qu'il paye le passeur. Là on est vraiment dans l'Antiquité, on n'est plus du tout dans le christianisme. Et curieusement, j'ai pas peur, Thomas. J'ai pas peur. Je me dis pas, mais qu'est-ce que c'est, un mort ? On embrasse le mort, on lui souhaite un bon voyage. J'observe encore ce chœur de voisine qui chante la vie du défunt, presque dans une polyphonie. Cette autre femme qui se griffe les joues pour exprimer son deuil. Ces miroirs qui ont été masqués par des sortes de draps noirs et de rideaux. Je suis là. Et je suis imprégné par ce... On a l'impression d'être dans un film des années 50, un film italien. Et, dans ma vie... Je me suis retrouvé dans des situations de mort subite devant moi, où j'ai dû, malgré moi, accompagner, puis ensuite le contrôler et l'accepter. Donc, je l'ai fait pour mon père, je l'ai fait récemment pour mon meilleur ami, en Grèce, où tu vois quelqu'un partir. Or, la mort dans le monde occidental, on la cache sous le tapis, on se dit « c'est la vie » après un enterrement. Mais non, c'est pas la vie, excusez-moi, c'est la mort. Il faut la regarder, l'observer dans les yeux, sans la craindre. Alors c'est très compliqué, parce qu'il y a des morts plus dures que d'autres. Mais quand tu sais que tu vas partir, tu n'oublies pas le voyage. Et tu te poseras moins de questions. Alors c'est un peu théorique, c'est un peu facile à dire, Thomas. Mais c'est la seule réalité. Donc oui, j'essaie de passer, comme de l'ombre à la lumière dans mon travail, quand j'accompagne des talents. Et un passeur, c'est aussi un père qui apprend et qui élève ses enfants comme ses enfants l'élèvent. Et un passeur, c'est aussi quelqu'un qui ferme les yeux de son meilleur ami et qui le souhaite un bon voyage.
Quand je vous regarde, Nikos Aliagas, je me dis parfois que vous êtes joyeusement désespéré.
Oui, c'est joli.
Et d'autres fois que vous êtes un homme heureux avec un sourire préoccupé.
Oui. Vous êtes en train de sourire comme un dépressif, c'est ça ?
Vous arrivez à être insouciant ?
Non.
Jamais. Même si... quand il y a la lumière, les flashs, qu'on demande de sourire, que vous faites Nikos Aliagas dans les shows télé.
Non. Je le suis pendant, mais en même temps dans ma tête, c'est une équation arithmétique et presque physique de déplacement, d'anticipation, de caméra 1, caméra 2, son, à quelle heure la pub, voilà, toute cette histoire qui est maintenant devenue, je dirais pas un automatisme, mais qui fait partie de mon ADN de réflexe et de survie en permanence, parce qu'il faut survivre.
Mais que vous aimez aussi.
J'adore ça.
Vous ne pourriez pas éteindre la lumière comme
mais
ça.
Non, ça sécrète une adrénaline.
J'arrête tout ça. Je vous ai jamais entendu dire, tiens, je vais aller élever des chèvres.
Non, pourtant, je me suis posé la question parfois, mais les chèvres ne m'aimaient pas. Non, je ne suis pas... D'abord, que les choses soient claires, je ne suis ni un dépressif, ni... Alors, j'ai une nostalgie, oui, mais je me soigne. J'ai fait de la télé. Je n'ai pas inventé un personnage, parce que j'avais cette part en moi aussi, mais je me suis caché un peu derrière elle pour m'aider à enlever mes complexes et mes peurs. Quand j'entrais dans une boulangerie gamin à Thomas, je n'osais pas demander une baguette. Je baissais la tête et je disais « une baguette, s'il vous plaît », avec la bouche sur le côté. Et elle disait « bien cuit !» Je regardais à côté, voilà. Et malgré tout, quand je me mets à nu à la télévision, en prenant un risque à chaque fois d'être ridiculisé, enfin, d'être jugé, d'être jaugé, d'être montré du doigt, ben j'ai plus le gamin qui flippe à ce moment-là. Donc j'ai essayé de faire confiance en cette partie pour me soigner. L'insouciance, je l'ai quand je prends mes enfants dans mes bras. Quand ma fille me regarde, Agathe, elle me dit, dès que je la dépose, oh, t'es le plus bon papa du monde. T'es le plus gentil papa du monde. Et je me dis, oh, est-ce que je le suis vraiment?
Et si elle avait raison?
Et si elle avait raison?
Alors là, Nikos Aliagas se lève, se met au garde à vous, puisque c'est évidemment l'hymne grec. Il y a un paradoxe avec vous, hein, c'est que lorsqu'on demande aux gens, à votre avis, Nikos, il est né où? Tout le monde répond en Grèce, quand on pose la question en France, alors qu'en Grèce, tout le monde sait que c'est en France. Est-ce que vous ne seriez pas un non-immigré déraciné, en fait?
C'est intéressant. J'ai pas la carte de l'immigré, pourtant j'ai une partie de moi qui l'est, parce que je porte l'exil de mon père qui quitte son pays avec une valise pour une vie meilleure. Alors l'hymne qu'on entend, l'hymne national grec, me donne le frisson, évidemment. Parce qu'on a idéalisé le pays de mes parents avec ma sœur, avec l'éternel retour d'Ulysse. Mmh. Et en même temps, l'hymne français me donne un autre frisson. Il me donne autant d'émotions.
Mais pour vous, c'est une double appartenance ou c'est une double absence ?
Appartenance.
Ouais.
Si je vois le verre à moitié vide, ben dans ces cas-là, je serai dans la complainte. Si je vois le verre à moitié plein, dans ces cas-là, je suis dans le lien que je crée et dans les ponts que je crée entre mes deux cultures, mes deux pays. Je suis riche de pouvoir réfléchir dans deux, trois langues. Je suis riche de pouvoir aimer et de l'exprimer dans plusieurs langues.
Vous parlez cinq langues, hein, je crois.
Oui, mais au-delà des langues, pour l'outil, mon cher Thomas, c'est ce que tu comprends d'une âme et d'un peuple. J'étais à Athènes le jour de l'an, je passe devant le Parthénon, et je le salue, et je suis ému encore de passer devant ce qui a résisté au temps. Et je suis à Paris, et je viens vous voir ici à Radio France, et je passe devant la Tour Eiffel, et je dis, waouh, quelle chance quand même de pouvoir être en France, dans ce pays magnifique.
Votre papa, il l'a vu la première fois en 1964, la Tour Eiffel, il arrive Gare de Lyon, vous liez avec sa petite valise, ses ciseaux de tailleur, et il vous a toujours dit à vous, à votre sœur, à votre mère aussi, à Roula, faut pas déranger. Ça veut dire quoi?
Reste à ta place. Tu as des droits, et la France te donne des droits, mais n'en fais pas trop non plus.
Mais ça veut dire quoi dans votre vie? Est-ce que ça vous guide encore, cette phrase? Faut pas déranger.
Mais oui, je l'ai de temps en temps, et je l'ai encore. Pas d'histoire. C'est-à-dire, fais pas de... Si je dois essayer de le transcoder, de vous l'expliquer dans mon quotidien, c'est pas parce que t'es à la télé et que t'es connu que tu dois avoir un avis sur tout. Quoi. Reste à ta place, fais ton truc, fais ton taf, rentre chez toi, c'est fini.
Vous avez toujours le syndrome de l'usurpateur? Le mec qui se dit, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas légitime, je suis pas à ma place?
Ben oui, ça dépend des jours. Avant un show, parfois. Dans le décompte, 5, 6, derrière le mur d'images avec 2000 personnes qui applaudissent quand il n'y a pas de Covid. Et tu écris ton nom. Nikos, ouais! Et moi, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ils vont me démasquer, ils vont dire, tu es le petit-fils, l'arrière-petit-fils, là, qui avait un âne à côté. Qu'est-ce que tu fais sous le figuier, là? On t'a vu pisser sous le figuier. Ah, c'est mes complexes. Bah, ouais, je serais assez curieux d'entendre les autres artistes. Et je leur pose souvent ce genre de questions, et tous ont un doute. Mais oui. Tous. Le jour où tu commences à être content d'être content, Thomas, c'est terminé, c'est plié.
Quelle est la différence fondamentale entre les Français et les Grecs? Nous, on est toujours râleurs, pessimistes, et eux? Et vous, l'autre partie de vous?
Mon autre partie, c'est, mais t'inquiète pas, on va, mais c'est déjà fait. T'inquiète, tu es chez toi ici, c'est déjà fait. Je te dis, c'est déjà fait. Franchement, j'ai appris à découvrir la culture grecque grâce à la France, au-delà de l'éducation de mes parents et à l'école grecque que je suivais d'ailleurs. en plus de l'école française, quand j'avais des discussions avec Jacqueline de Romilly, l'académicienne, la doyenne de l'Académie française, la plus grande helléniste de France au XXe siècle, qui me disait, vous, j'ai moi, mon cher Nikos, nous avons beaucoup de points communs, elle me disait. Moi, je suis de l'Académie française et vous, vous êtes de la Star Academy. Et on partait sur un délire autour de Thucydide, des présocratiques, de Platon, de Socrate. Elle ne me parlait pas comme si j'étais initié, j'avais fait des études un peu, mais elle décodait, elle vulgarisait sans simplifier. Mais c'est un peu ce que m'a permis la France de faire vis-à-vis de mon bagage grec. C'est-à-dire que la France m'a jamais obligé de changer de nom. Quoi.
Comme vous n'aimeriez pas qu'on vous demande de mettre un prénom français aujourd'hui ?
C'est même pas un problème dans l'absolu. Oui. Tout ça, c'est du bruit. C'est-à-dire que
soyons... On en revient au bruit.
Mais oui. Aznavour, c'est Aznavourian. Il a coupé le I, A, N. Il reste Aznavour. Oui. Mais il aimait la France. Il a incarné la culture française. Et le pays te donne cette possibilité.
Vous avez employé une expression tout à l'heure, vous avez dit, j'ai pas la carte.
Oui.
En parlant de vos origines, j'ai pas la carte. Est-ce que professionnellement, vous avez l'impression d'avoir la carte ? Vous qui avez toujours eu une jambe dans l'animation et une jambe dans le journalisme, vous avez présenté le 20h en Grèce, vous avez présenté une matinale Radio Europe en France. Pourquoi vous l'avez fait d'ailleurs, cette expérience à Europe, là, cette année de matinale, beaucoup n'attendaient qu'une chose, c'est que vous vous plantiez. Mais Aliagas, c'est la Starac, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? Vous l'avez fait pour leur montrer que vous saviez le faire ? C'était quoi votre moteur ?
Quand j'ai fait la Starac, on attendait que je me plante. Ben, on attendait, tout le monde s'en foutait, mais il y a eu des potes qui me disaient t'as rien à foutre là-dedans, t'es grand reporter, tu viens d'Euronews. Quand j'ai fait, quand Lou me disait t'as rien à foutre là-dedans, c'est de l'humour, c'est pas ton monde. Quand j'ai fait la matinale d'énergie, on me disait mais attends, mais t'es trop sérieux, t'es journaliste, t'as rien à foutre ici. Ça fait partie de ce regard dans un stade, il y a toujours dans les gradins des gars qui vont te dire à gauche et à droite quoi faire. Quand j'ai fait la matinale, j'ai entendu aussi cette petite musique. Et moi, j'avais besoin de le faire.
Pourquoi ? Pour vous prouver quelque chose ? Pour leur prouver quelque chose ?
Pour moi, de façon, pardon de le dire, de façon égoïste. Parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire la carte ? Moi, la seule carte que j'ai connue chez moi, c'était la carte de séjour de mes parents. Et la carte orange, j'ai tellement fier. Et ma première carte bleue, qui est une carte où il n'y avait rien, où tu pouvais prendre 10 francs ou 20 francs, juste, voilà. La carte, on te la donne, mais tu la dois. Elle n'est jamais gratuite. Donc, j'en veux pas des cartes. C'est comme les étiquettes. L'étiquette, on te la colle. Mais elle est pas, c'est pas ton problème.
Ça veut dire quoi, qu'elle vous a manqué la carte et qu'aujourd'hui, vous n'en voulez plus ?
Non, la réalité, c'est que tu l'avais au début. Parce que tu veux rentrer dans des cases au départ. Tu as peur. Et avec le temps, tu te rends compte que tout ça, c'est futile. On te colle une étiquette. Ok, très bien. Accepte-la déjà. Déjà, elle fera moins faux sur tes fringues. Mais la meilleure façon de s'en débarrasser, elle est très simple, t'en recolles plein d'autres. Et à la fin, il n'y a plus d'étiquette, il y a un nouveau costard. Et puis, ce ne sont pas les autres qui font ni ta carrière, ni tes envies, et ce ne sont pas l'approbation des autres qui te rendra heureux et qui te fera être accepté par le public. C'est le public qui va donner ta chance. C'est facile de dire, je ne dirais pas mon public, je n'ai pas cette présomption. Le public te croit ou pas, avec ou sans carte.
Moi, je pense que vous avez aussi fait des choses pour que vos parents soient fiers de vous. Je pense au premier JT que vous présentez sur TMC. Votre maman, Aroula, comment elle réagit la première fois qu'elle vous voit au JT ?
Vous la connaissez, ma mère. Ma mère, d'abord, je lui dis, j'ai passé le casting en dernier pour rigoler. C'est le journal de télé Monte Carlo, je suis à Euronews. J'étais pas statutaire encore. Et ils m'ont choisi, moi, maman. Et là, silence. Je peux mourir heureuse. J'ai dit, maman, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais je te demande pas de mourir. Donc elle voulait mourir. Parce que tout ça, j'allais passer à la télé. Mon fils ! Mais tu vas. Elle me dit, après, elle me dit, mais est-ce que tu. Comment tu sais ce que tu vas dire ? Mais dis pas de conneries. Et j'ai dit, maman, je suis journaliste, juste, j'ai une carte de presse. Voilà la carte. Ouais. J'ai une carte de presse, je comprends pas. C'est quoi cette question ? Et ce jour-là, elle me voit et elle me dit. Trace ta route.
Déjà, elle aussi.
Déjà. Mais j'avais pas de certitude pour moi, mais encore, j'en ai toujours pas, Thomas. Je sais pas si à la fin de la saison ou à la fin de la semaine, je serai encore là. Et c'est pour ça qu'il faut la bonne distance avec ce que tu fais à chaque fois.
Il y a Aroula, votre maman, et puis il y a aussi Maria, votre petite sœur, qui a beaucoup, beaucoup d'admiration pour vous, Mafalda. Qui travaille avec vous. Vous l'appelez Mafalda ?
Mais oui, elle est contente quand je dis ça. Elle doit nous entendre. Bah, c'est ma sœur, c'est sans ma sœur, je suis foutu.
On va l'écouter chanter avec vous, et on entend vos parents d'ailleurs au début. Le titre s'appelle
Haram.
Haramou, extrait d'un album que vous avez sorti en 2007 en Grèce.
Ouais, ça veut dire ma joie.
Δυο λόγια μόναχα, ένα γλυκό, σ' αγαπώ.
Χαρά μου, για σένα ζω χαρά μου, το ξέρεις, χωρίς να στο έχω πει.
Playback.
La plus grosse sciopi.
Maria.
Απ' τον έρωτα το τρελό. Έχω γίνει παιδί δειλό. Σε λατρεύω μελαγχολό. Μα δεν μιλώ. Χαρά μου. Για σένα ζω χαρά μου.
Arrêtez de me filmer, Thomas Soto. 3, 2... C'est la chanson de mariage de mes parents, en fait. Parce que ma mère s'appelle Chara, qui veut dire la joie en grec. Et c'est la chanson que mon père lui chantait. C'est la chanson du couple lors des fêtes de famille, à Noël, à Pâques. À... Allez, on va chanter maintenant. Et donc...
Έχω γίνει παιδί δειλό. Σε λατρεύω μελαγχολό. Μα δεν μιλώ. Χαρά μου. Για σένα ζω χαρά μου.
Λοιπόν, je vous soupçonne de rêver d'être une rock star, Nico.
Oui,
vous n'arrêtez pas de chanter.
J'ai chanté beaucoup dans ma jeunesse.
Vous n'arrêtez pas, là, la soirée du 1er janvier en Grèce, vous avez chanté à la télé.
Ouais, j'ai fait la rockstar.
Vous chantez avec Danny Briand sur son dernier album, un duo, La Mama.
Fiori, on en a fait un génial que vous allez découvrir dans quelques temps avec Patrick Fiori. Je chante pour le plaisir. Je chante pas pour devenir chanteur.
C'est pas votre vrai rêve? Il n'est pas là, votre vrai rêve?
Oh, je sais pas. Dans ce cas-là, être photographe aussi, ou faire de la comédie, j'ai commencé à faire du théâtre. Je me dis... On trace parce que la vie est courte et qu'il faut se marrer. Alors le regard des autres, c'est... Vous faites, qu'est-ce que tu fais un chanteur maintenant? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Juste s'amuser. Pardonnez-moi de vouloir m'amuser. Ouais. J'ai cette folie de ne pas avoir peur du ridicule. Et de le faire sérieusement. Donc, on est moins ridicule.
On a retrouvé une petite archive de la Starac. On est en 2005. Ouais. Et ce soir-là, il y avait Johnny Hallyday sur la
table. Jojo.
Il paraît que dans tous les times, les prime times... Il paraît que pour faire chauffer la salle, tu m'imites et tu chantes des chansons.
Là, je ne peux pas imiter le taulier, c'est impossible.
Alors moi, je suis là et j'aimerais voir ça. Vous êtes d'accord?
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de plus. Les mots ne sont jamais les mêmes, tu sais, pour exprimer chaque quel bleu.
J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues.
Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai tu.
Il y a le retour sur les guitares,
et ma voix.
Le patron, le taulier, comme je l'appelais.
Il vous touche particulièrement, lui. Hein.
Ah, il me touche beaucoup, Johnny.
Pourquoi? Pourquoi lui plus que les autres? Pourquoi lui différemment des autres?
D'abord parce que j'ai grandi en le regardant à la télévision. Dans les Maritiers, Gilbert Carpentier, quand j'étais gamin, c'était ma fenêtre de liberté. Je me disais, il était là en noir et blanc. Et en même temps, parce qu'il était touchant, Johnny. Quand il n'était pas Johnny Hallyday sur scène, quand il n'était pas un survivant, quand il n'était pas un warrior, c'était un gars super touchant, super attentionné. J'ai des images comme ça avec Johnny, on est à Los Angeles, je suis parti pour un reportage et je le croise et il est 2h du mat, tout le monde est parti du resto, on a fermé la boutique, on a une bière, on est assis sur le trottoir et il me dit « Fais des enfants ». J'ai dit « Ah ouais, ouais, t'as raison ». C'est tout ce qui compte, il me dit. Voilà, et on parlait de ça, il me dit « Je sais pas ». Voilà, il m'ouvrait son cœur comme quelqu'un qui n'était pas le Johnny connu, comme quelqu'un qui n'était plus une rockstar, mais juste une sorte de figure paternelle, d'une certaine façon.
Et qui vous aimait énormément, parce qu'il vous aimait beaucoup, Johnny Hallyday. Quand vous entendez ça, il se passe quoi ? Vous vous dites « Tiens, c'est l'heure d'aller au boulot ».
Je suis dans le couloir en train de courir, je suis à la bourre, je cherche mes oreillettes. C'est Papy Boynton, quand il y a un bombardement. Ouais. Faut y aller, Et puis c'est là en ce moment, on est en plein tournage de The Voice justement. Ce sont des nuits, des soirées entières passionnantes, mais c'est un boulot en amont qui est considérable.
Ça vous fait encore dresser les poils ?
Oui, ouais. Quand ça chante bien, quand il y a un moment suspendu, magique, oui, je me fais cueillir. Ouais. Oui, quand je suis avec les familles derrière, et malheureusement depuis 2 ans, c'est un peu compliqué avec la crise sanitaire. Et que je sens, quand je prends la main d'une mère, d'un enfant, ou d'un accompagnant, l'émotion pour son talent qui est sur scène. Je me fais encore cueillir. Mais je n'anime pas de la même façon que j'animais au début, quand je suis arrivé il y a 20 ans à TF1, où tu veux faire l'animateur, justement. Tu veux prouver, tu prends le micro, comme ça, à la main. Bonsoir, on est là, mais tu t'envoies de partout, et en fait... Avec le temps, t'animes plus, t'accompagnes. Mmh. C'est pas la même chose.
Comment vous... Ça représente quoi pour vous le divertissement aujourd'hui ?
C'est noble de divertir. Ouais. C'est très difficile de divertir.
Le rôle de The Voice dans la société, c'est quoi aujourd'hui ?
C'est pas l'opium du peuple, comme dirait l'autre, dans un autre contexte, mais y a pas suffisamment de problèmes quotidiennement. Regardez ce qu'on vit depuis tous ces mois. Tous, chacun avec sa réalité, sa vérité, son enseigne, ses craintes, ses doutes. Regardez la dureté de la vie. De voir ton gamin avec un masque, tout est plus compliqué. Regardez la patience des gens et en même temps le désarroi, l'impossibilité de se projeter. C'est vrai pour toutes les sociétés du monde et toutes les démocraties du monde. On le vit partout.
C'est-à-dire quoi, que c'est un remède à l'anxiété de la société ? Ça joue un peu ce rôle.
Remède est un grand mot, mais en tout cas, ça accompagne pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça t'accompagne dans la décompression de ta journée. Je ne sais pas si j'arrive à te soigner, mais au moins je te fais oublier la dureté, et même la dureté médiatique quotidiennement. Tu ouvres à la chaîne les histoires, les problèmes, les fins du monde. Voilà. Au bout d'un moment, dis-moi, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes du monde, loin de là, mais pendant 3 heures, on va essayer de se faire du bien, donc vous faire du bien. C'est ça mon rôle. Et divertir, c'est écrire une comédie. Regardez la difficulté de faire rire pour un comique, depuis Molière, Aristophane, jusqu'à aujourd'hui. La subtilité qui fait divertir, c'est pas crier dans tous les sens et faire la fête gratuitement, c'est accompagner dans un monde où il y a peut-être un peu moins de tension, mais il y a tout autant d'enjeux. C'est ça, divertir.
On évoquait vos enfants qui n'étaient pas encore nés quand vous en parliez avec Johnny Hallyday sur le trottoir à Los Angeles. Ouais. Aujourd'hui, ils sont là, ils prennent toute la place, Agathe et Andreas et leur maman Tina. Quand vous les regardez, Agathe et Andreas, vous êtes plein d'espoir ou vous êtes plein d'inquiétude ?
D'abord de gratitude d'avoir pu avoir rendez-vous avec eux. Une responsabilité. Donc, un poids. C'est-à-dire, oula, où est-ce qu'on va les laisser ces gamins ? Dans quel monde ? Alors c'est trop facile de dire moi je fais pas de gamins parce que le monde est trop juste, il a toujours été juste. Mais qu'auraient dit nos ancêtres ? Qu'aurait dit ma grand-mère qui voyait sa maison brûlée par les nazis au lance-flammes ? Qui voyait son frère exécuté pendant la guerre civile ? Qui voyait son fils, mon père, avec un ventre gonflé parce qu'il est né pendant la famine de 39 à Athènes ? Qu'aurait dit ma grand-mère ? Je fais pas d'enfant. Donc arrêtons de nous plaindre. Nos enfants, ils manquent de rien. Je ne sais pas ce qui se passera en 2050. Je ne sais pas si la planète sera là, si tout, on va être dans le déluge ou dans la sécheresse absolue. Mais tant qu'on est là et qu'on est ensemble, apprenons-leur à vivre avec légèreté et conscience.
On va marquer une deuxième pause musicale, Nikos Aliagas. Le temps d'écouter le titre que vous avez choisi, c'est Marianne Faithfull. Vous nous le présentez, ce titre?
Ah, c'est un titre gay.
C'est quoi?
Non, c'est un titre...
C'est pas gay du tout.
Non, mais c'est aigre doux comme j'aime. Ça s'appelle the Gypsy Fairy Queen.
Marianne Faithfull, d'Orbiste.
Nick Cave, qui fait la tierce.
Different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the Gypsy Fairy Queen. We exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. Follow, 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 my Gypsy Fairy Queen. We exist in the twilight in between.
Soto.
Nikos Aliagas est dans Hors Piste sur France Inter. Nikos Aliagas, animateur télé, animateur radio, journaliste, photographe, timbré aussi. Il existe un timbre de Nikos Aliagas en Grèce. Aliagas en cire également au musée Grévin à Paris. Il n'y a pas un moment où forcément on perd pied, on grimpe sur son poney, on se la pète un peu comme on dit?
Oh, certainement au début. Au début, je me souviens quand je présentais le journal de télé Monte Carlo et que j'allais à Monaco, parfois j'avais l'impression que tout le monde me regardait, tout le monde s'en foutait.
Ouais.
Et puis un jour t'es plus à l'antenne et puis plus personne te regarde et même ceux qui te regardaient te prenaient pour un autre. Donc vous n'êtes pas, tu t'adaptes. C'est après la notoriété, c'est pas une arrivée en tous les cas, ça peut être un moyen. Moi ça m'a aidé à mieux, j'espère, à mieux me connaître,
ouais.
À savoir ce que tu voulais pas, c'est-à-dire...
Ça vous pèse jamais ?
Si, ça déforme beaucoup, ça déforme. Alors au début, c'est choquant, parce que les gens te regardent comme le monsieur qui est dans leur salon, dans la télé. Ils te regardent pas comme le fils du tailleur, ou le papa d'Agathe, maintenant, aujourd'hui, voilà. C'est un malentendu permanent, parce que ça t'appartient, en même temps ça t'appartient pas. C'est l'autre qui te regarde, c'est pas toi qui dois vivre en considérant que tu dois te donner à tout prix à ceux que tu croises dans ta vie, dans ta rue, dans ton quartier, dans ton travail, l'image du gars qui travaille. T'es pas obligé de faire le numéro de claquette devant l'ascenseur tous les matins devant ton voisin dans un « Hey, tapez un !» Voilà, faut arrêter. Ouais.
Qu'est-ce qui vous tient connecté à la vraie vie ?
Je ne sais pas si je suis plus connecté qu'un autre, mais en tous les cas, j'oublie pas. Je suis pas amnésique. Je me souviens d'où je viens, de ma famille. Je me souviens de mes dimanches matins avec mon père faisant la queue devant un PMU pour jouer un tiercé. Ça force à l'image du tiercé. Mon père qui boit son petit café, qui parle avec son accent d'immigré, il disait « Je voudrais dire bonjour. » Je viens de là, monsieur. Je viens pas des salons du 16e et je viens pas des grands hôtels, même si j'aime y passer. Mais ça n'est pas mon ADN naturel.
S'il y avait une photo pour résumer l'époque qu'on vit en ce moment, elle ressemblerait à quoi, Nikos Aliagas ?
Un masque qui flotte sur la Seine.
Ouais. La Seine S-E-I-N-E ou la Seine S-C-E accent grave N-E ?
La Seine qui coule sous le pont Mirabeau. Un masque pour nous protéger, et une fois qu'on est protégé, on le balance parce qu'on s'en fout, on devient égoïste, et en plus on le rend à la nature, on balance du plastique à la nature. Et on a passé ces dernières années à crier sur le réchauffement climatique, la planète, qui est un fait, on voit bien qu'il y a un problème. Ouais. Et d'un autre côté, allez, des milliards, fais des trucs, du plastique, prends. C'est le paradoxe de notre époque et de nos peurs.
Vous pensez que cette épidémie, elle nous aura vraiment changé ? Elle aura vraiment changé le monde ? Elle nous aura réveillés ?
Elle nous aura rappelé que la vie n'est pas nécessairement un long fleuve tranquille. Elle nous aura rappelé aussi que l'homme peut être capable du meilleur comme du pire. Ça a réveillé nos vieux démons, ça a réveillé nos peurs existentielles aussi. L'enfer, c'est l'autre, on le pointe du doigt. Le bouc émissaire, quelqu'un doit payer ici. C'est à cause de vous, non, c'est à cause de ça. Et là-dedans, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus le regard de celui que je croisais tous les jours. Ça a réveillé tout ce qu'on n'avait pas résolu. C'est humain. Mais en même temps, il n'est pas trop tard. À nous d'accepter qu'on a des peurs, à nous d'accepter que... Voilà, on a peut-être pris des voies qui n'étaient pas les bonnes en chemin et qu'on peut encore recommencer. On peut encore se lever et recommencer.
Vous voterez, vous, à la présidentielle ?
Bien sûr, je suis un citoyen français et oui. Je pense que la démo, c'est une chance de pouvoir voter, quel que soit le vote. C'est une chance. Il y a des pays où on ne peut pas voter.
Je vous pose cette question parce que vous avez interviewé beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs de gouvernement. Quel regard vous portez sur les politiques qui sont tellement vilipendées aujourd'hui ? En quelle estime vous les portez, vous ?
La démocratie doit être plus forte que ceux qui sont les protagonistes de notre époque. Le processus démocratique doit être plus fort que telle ou telle politique ou parti politique. Si vous voulez qu'on parle de religion, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a des prêtres bien, il y a des prêtres moins bien, il y a des dans toutes les religions. Mais en même temps, le lien religaré est plus fort. Et je pense que notre soif de démocratie doit être plus forte que le débat qui parfois peut être chaotique. Il dépend de nous. On dit souvent on a les politiques ou on a les présentateurs
qu'on mérite.
Non, c'est trop facile parce qu'on s'en lave les mains. Quand tu dis qu'on mérite, c'est comme si tu montrais l'autre du doigt. Non, non. On a les politiques pour qui on vote. C'est pas la même chose. Et donc oui, je voterai, bien sûr. Ouais. Je suis fier d'être un électeur comme les autres et de faire la queue comme tout le monde pour aller déposer mon urne. Parce que si je le fais pas, quelqu'un le fera à ma place.
Nikos Aliagas, comme tous les invités de Hors-Piste, je vous ai demandé d'apporter un objet. Je me suis dit, le connaissant, il vient avec son appareil photo, mais j'avoue que je ne le vois pas. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme objet ?
Regardez, c'est une petite chouette.
Une chouette ? Pourquoi une chouette ?
Parce que je suis, paraît-il, uhulophile.
Uhulophile. Donc vous aimez les chouettes qui ululent ?
Oui, les chouettes ou les hiboux. Je collectionne des chouettes.
Il y en a partout chez vous, on va dire la vérité.
Partout.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous dit ? C'est quoi ? C'est lié à Athéna ? C'est lié à la sagesse ?
C'est une porte pour moi. C'est une porte entre la vie et la mort, d'abord. C'est une porte entre le monde visible et invisible, parce que les chouettes sont des animaux, depuis l'Antiquité, qui sont considérés comme des êtres psychopompes, des accompagnateurs d'âme.
comme le sont aussi certains symboles dans la religion, comme l'archange Michel. Saint Michel, par exemple, est un psychopompe, celui qui accompagne les âmes. Les dauphins sont des psychopompes, voilà, qui sont des capteurs d'âmes, d'émotions, et qui peuvent montrer le chemin. On en revient à ça. Parce que Athéna, vous l'avez dit, symbolisait la sagesse, c'était la fille de Zeus, et en même temps, elle avait toujours une chouette sur son épaule. C'est aussi le pouvoir qui ne dort pas. La sagesse, c'est la capacité à avoir la bonne distance avec les choses. Comme une photo,
trop près. Et à garder les yeux ouverts.
Tout le temps, même la nuit. Et elle voit dans la nuit. Trop près, c'est flou. Trop loin, tu vois rien. Et c'est ça, la sagesse. Et j'espère, j'aspire, au bout de tant d'années de collection de chouettes et de hiboux,
à faire partie un peu de la famille.
À faire partie un peu de la famille sur un malentendu à la fin de l'histoire.
Quelle place occupe la mythologie dans votre vie ?
Je le fais à mes enfants depuis qu'ils sont nés.
Pas mal.
Ben, la mythologie, l'homme l'a inventée pour essayer d'expliquer ce qui était inexplicable. La mythologie n'a jamais cessé de nous quitter. Les boîtes de Pandore peuvent être ouvertes à n'importe quel moment. Le tonneau des Danaïdes aussi. Vous savez, la mythologie n'a pas vieilli parce qu'au fond, elle n'a jamais cessé de nous ressembler. Vous avez certainement un Ulysse qui dort en vous, ou un Zeus qui n'attend qu'une chose, c'est de sortir et se transformer en pluie ou en tonnerre pour survivre.
En Zeus, ça serait un peu prétentieux quand même.
Surtout par les tenticours, vous voulez dire.
Absolument.
Comment on l'appelle en latin ? Jupiter. Ah, j'avais pas fait la connexion.
J'ai une toute dernière question qui est un peu plus terre à terre,
oui.
Mais qui est fondamentale pour moi, parce que oui. J'ai jamais compris. Pourquoi vous n'avez pas le permis de conduire, Nikos Aliagas ?
Voilà, fin de l'interview.
Pourquoi vous n'avez pas le permis de conduire ?
Parce que, vous voulez vraiment savoir pourquoi ?
Ouais.
Parce qu'on n'avait pas d'argent, mais on ne sentait pas pauvre. Parce que mon père trouvait toujours le moyen d'économiser suffisamment ou d'emprunter pour acheter une belle voiture. Et vous savez pourquoi il a acheté une belle voiture ? Pour rentrer chez lui, dans son village, comme un riche. Et pas comme un pauvre. Parce que parfois, on n'avait pas de quoi payer à la fin du mois. Et arrondir le loyer. Donc, quand il revenait avec sa Mercedes d'occasion ou sa belle bagnole faussement flambant neuve au village, on disait pas l'immigré, on disait la réussite. Et voir mon père passer toute sa vie à aimer sa voiture comme on aime une princesse, à nous engueuler avec ma sœur quand on mangeait un sandwich et ça faisait des miettes, à conduire vite, à fumer dedans, à écouter de la musique, m'a énervé. Un jour, je lui ai dit, papa, un jour, j'aurai les plus belles bagnoles du monde, mais je ne conduirai pas. Alors, j'ai pas les plus belles bagnoles du monde, mais je lui ai acheté sa dernière voiture, celle qu'on a encore gardée, parce que c'était la voiture de papa. Un jour, je l'ai fait garer devant chez lui, c'est ta voiture, papa. Il m'a regardé, il avait les larmes aux yeux. Et il avait compris qu'à ma façon, je conduisais quand même ma vie.
Merci beaucoup, Nikos Aliagas, d'être venu faire un peu de hors-piste avec nous.
Merci, merci, docteur, je vous dois combien?
On vous enverra la note. Merci également à Marie Mairie à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tessert, la mémoire vive et Pierre-Yves Derolin aux manettes. Nikos, je voudrais qu'on dédie cet ami à un ami commun qui était même un frère pour vous l'avez évoqué, c'est Alekos. Il est parti il y a quelques semaines et il nous manque infiniment. Prochain hors-piste dans une semaine, dimanche à 17h. Et le dernier mot dans cette émission revient toujours à l'invité. C'est donc à vous, Nikos.
Merci pour l'amitié. Merci pour Alekos. Merci pour les absents. Ils sont jamais très loin.
Merci à vous.
Merci, mon Thomas.